Chers camarades, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Selon une étude publiée récemment par l'ONG Oxfam, les 1% les plus fortunés posséderont bientôt la moitié de la richesse mondiale. La même étude nous apprend que les 100 personnes les plus riches de la planète se partagent aujourd'hui la même richesse que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Ces 100 capitalistes possèdent à eux seuls autant que 3,5 milliards d'individus. Pendant ce temps-là, toujours selon Oxfam, 75% de la population mondiale doit se contenter pour vivre de 5% des richesses de la Terre. Alors, on nous répète que les caisses des États sont vides, mais les coffres-forts des capitalistes sont, eux, vraiment pleins à craquer. Et pourtant, par quoi est marquée l'actualité sociale? Eh bien, par la continuation des licenciements, partout en France, et par un chômage galopant qui s'élève désormais à 5 millions de personnes. Par un grand patronat qui n'arrête pas de pleurer de misère et qui exige que les salariés acceptent chômage, bas salaire et précarité. Dans le département, le niveau de chômage est aujourd'hui au-dessus de la moyenne nationale. Et dans chaque famille ouvrière, on sait ce que cela veut dire de se retrouver sans emploi en ce moment. Dernièrement, c'est le groupe ThyssenKrupp, avec ses 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014, qui vient d'annoncer à Angers 258 suppressions d'emplois. Si on les ajoute à tous les licenciements de ces 10 dernières années, chez Bull ACT, Motorola, Thomson Technicolor, aux fonderies de Lothion ou encore aux ardoisières de Trélazé, eh bien ce sont près de 10 000 emplois industriels qui ont disparu en 10 ans. Alors quand les travailleurs de Thyssen mettent sur la place publique les méfaits d'un patron sabreur d'emploi qui ne licencie que pour engraisser les actionnaires, ils ont vraiment 1000 fois raison de le faire. Le patronat, aidé par le gouvernement, ne cesse d'attaquer nos conditions de travail et de vie, d'alourdir la charge de travail des uns, tandis qu'il met les autres au chômage, de généraliser la précarité, de réduire les salaires pour accumuler plus de profits. Tout ça, c'est dans l'ordre des choses. Le patronat a conscience de ses intérêts, il a une politique de classe et il se bat pour l'imposer. Eh bien, face à lui, il faut que nous, travailleurs, nous réagissions. Il faut opposer au patronat et au gouvernement nos intérêts, notre politique, et mener notre combat. C'est parce que nous ne combattons pas collectivement les licenciements, les suppressions d'emplois et les fermetures d'usines qu'une partie d'entre nous est livrée au chômage. C'est parce que nous ne nous battons pas que nous vivons plus mal. C'est vrai, le combat est difficile. On sait bien que c'est le grand patronat qui domine et impose les reculs que nous vivons. On sait bien que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, qui peut décider de qui travaille, de qui ne travaillera pas, de quelle usine il gardera et de quelle usine il fermera. Avec son argent, il peut tout acheter. Et ce n'est pas le gouvernement Valls, tout entier à son service, qui l'en empêchera. Alors oui, c'est un combat difficile que nous avons à mener. C'est le combat du pot de terre contre le pot de fer, mais nous n'avons pas le choix. Il faut nous battre pour nos intérêts et pour nos exigences, car personne ne le fera à notre place. De la gauche à l'extrême droite, en passant par le centre et la droite, tous prétendent défendre les intérêts des Français ou de la France. Mais à chaque fois qu'ils parlent au nom des Français, ils le font pour nous endormir, pour nous faire croire que nous serions tous dans le même bateau. Quand ils nous parlent à tout bout de champ de l'intérêt national, c'est en fait pour gommer la lutte de classe permanente qui se déroule entre la classe ouvrière et le patronat. Ils voudraient nous faire croire que la même politique serait bonne pour les patrons et pour les ouvriers. Mais prenons les licenciements. s'ils sont bons à l'évidence pour les profits de Thyssen, par exemple, ils sont vraiment catastrophiques pour les travailleurs mis à la porte. Prenons aussi les 20 milliards de cadeaux fiscaux et d'exonérations de cotisations sociales accordées par les gouvernements aux grands patronats. Cela fait des millions pour les plus grands, comme les familles Peugeot, Dassault ou Bettencourt. Mais qu'est-ce que ça nous rapporte à nous, travailleurs ? Eh bien, rien du tout. Aucune embauche à la clé, aucune amélioration de nos conditions de travail, aucune augmentation de nos salaires. Et pire encore, bien souvent, ces cadeaux se retournent contre nous, car ils vident les caisses des prestations sociales et du coup, ces prestations sont coupées ou supprimées. Alors, entre une politique pour la bourgeoisie et une politique pour les travailleurs, il faut choisir. Et ceux qui prétendent concilier les deux nous trompent et nous trahiront une fois arrivés au pouvoir. À Lutte ouvrière, à l'inverse de tout cela, nous pensons que nous n'avons pas d'autre choix que de faire payer la bourgeoisie. À l'inverse de ces gens-là, nous ne prétendons pas avoir une politique pour résoudre les problèmes de l'économie en général ou pour relancer la croissance, tout simplement parce que ce n'est pas possible dans le cadre de ce système où le seul moteur est le profit individuel et la concurrence aveugle. Pour résoudre les problèmes de l'économie actuelle, pour qu'il n'y ait plus de crise, il faudrait bouleverser tout l'ordre économique. Il faudrait supprimer la loi du profit et la propriété privée des entreprises. En un mot, il faudrait mettre fin au capitalisme. Mais dans le cadre de cette économie injuste et complètement folle, eh bien nous disons que les travailleurs ont le droit et le devoir de se battre pour sauver leur peau. Alors, la croissance pour laquelle il faut se battre, ce n'est pas la croissance en général, mais la croissance des emplois, la croissance des salaires, la croissance des pensions. La relance à laquelle il faut œuvrer, c'est la relance du pouvoir d'achat et l'amélioration de nos conditions de vie. On n'en a que faire, nous, de la reprise des profits, car ça n'a jamais été une garantie pour nous, bien au contraire. Plus les patrons en font, et plus ils licencient. Et de toute façon, les capitalistes savent toujours se débrouiller, même en pleine crise. Alors aujourd'hui, notre politique doit répondre aux problèmes du monde du travail, et exclusivement à cela. Elle doit répondre aux problèmes que nous rencontrons au quotidien, avec l'aggravation de la crise. Voilà ce qui doit nous guider, voilà notre perspective. Ce qu'il faut, c'est mettre en avant une politique pour le monde du travail, pour la défense de nos intérêts. Et seule l'interdiction des licenciements, l'augmentation de notre pouvoir d'achat et le contrôle des comptes des grandes entreprises pourra nous permettre de sauver notre peau. Alors, les attentats du mois dernier ont bouleversé le pays. Un des buts recherché par les terroristes était de creuser un fossé de sang et d'incompréhension dans la population. Et de fait, ces attentats ont fait ressortir de ce qu'il y a pire dans la cité. Le racisme sous toutes ses formes, contre les Arabes comme contre les Juifs, et contre tous les immigrés et descendants d'immigrés. On a pu voir comment l'extrême droite cherche à surfer sur ces actes ignobles pour créer la psychose et renforcer les préjugés les plus répugnants. Mais d'une manière plus générale, on cherche à nous mettre dans le crâne que notre identité tout entière dépendrait de notre origine ou de notre confession. Mais notre identité ne se résume pas à cela. Un aspect bien plus important de notre identité est notre place dans la société, celle d'être travailleuse, travailleur, ouvrier, employé, gardien, caissière, cheminot, aide-soignante, enseignant ou encore factrice. C'est à l'usine, au bureau, au travail que l'on passe la plus grande partie de notre vie. Quand on en sort, on garde en tête ce qui s'est passé. L'ambiance au travail, les vexations, les problèmes, mais aussi, dans bien des cas, la camaraderie. Et c'est de notre travail que dépendent notre salaire et nos conditions de vie. Alors le travail, ce n'est peut-être pas toute notre identité ni toute notre vie, mais il en représente une part essentielle. Cette vie, nous la partageons avec nos compagnons de travail. La galère de l'exploitation, des fins de mois difficiles, le chantage des chefs, tout ça, nous le partageons. Face au patron, nous avons les mêmes revendications, nous formons une même classe sociale, une classe composée de travailleurs de toute origine et de toute religion, mais qui a fondamentalement les mêmes intérêts. Alors, le monde du travail doit faire bloc face au patronat, parce que sa force réside dans son ombre. Et tous ceux qui cherchent à attiser les divisions entre travailleurs, qui brandissent les différences religieuses, qu'ils soient racistes ou intégristes ou les deux, tout cela sont pour nous des ennemis. Et face à tous ceux qui veulent dresser un mur entre nous, il faut affirmer qu'il n'y a qu'une seule et unique communauté, celle des travailleurs et des exploités du monde entier. La classe ouvrière a des forces prodigieuses. L'histoire des insurrections ouvrières et des révolutions, ne serait-ce que des grèves générales, comme la France en a connu en 1936 ou en 1968, eh bien, cette histoire a montré que les travailleurs peuvent non seulement imposer leurs exigences au patronat, mais aussi changer le cours de l'histoire. Mais cette force, elle est liée à la conscience de chacun d'entre nous d'appartenir à cette classe et d'avoir une politique à défendre. Et cela commence par la conscience d'avoir à rejeter le patronat, mais aussi tous les partis bourgeois à son service. On ne doit pas déléguer notre voix à des politiciens qui pensent et réfléchissent du point de vue de la bourgeoisie pour défendre les intérêts de la bourgeoisie. On le mesure aujourd'hui, le Parti socialiste et la droite se relayent au pouvoir pour mener toujours la même politique, aider le grand patronat. Toutes les mesures prises par Hollande, les mesures sur les retraites, la loi sur la flexibilité du travail, l'augmentation des impôts, les coupes dans les dépenses publiques, la loi Macron qui accélère le démantèlement des droits ouvriers, eh bien toutes ces mesures montrent une continuité parfaite avec les mesures Sarkozy. La droite et la gauche se relayent pour défaire les droits que les travailleurs ont conquis de haute lutte. Chaque gouvernement s'y attaque, petit bout par petit bout. Mais au final, ils ont réussi en quelques années à y rayer les fruits de plusieurs décennies de luttes ouvrières. Car il en a fallu des combats pour que la classe ouvrière n'ait plus à vivre au jour le jour pour qu'elle gagne un minimum de sécurité. Il a fallu d'ailleurs se battre pour tout, pour limiter l'exploitation, pour obtenir des garanties, pour se soigner, pour envoyer ses enfants à l'école ou encore pour s'assurer une retraite. Mais où en sommes-nous aujourd'hui ? Combien de travailleurs aujourd'hui peuvent espérer avoir un emploi jusqu'à la retraite ? Combien d'entre nous sont forcés de jongler entre les périodes de chômage et les périodes de travail sans avoir aucune garantie de rien ? Combien doivent attendre le coup de fil qui leur donnera quelques jours, voire quelques heures de travail ? Et tous ces jeunes qui se retrouvent à travailler gratuitement en enchaînant les stages, quand est-ce qu'ils auront droit à une embauche ? Quant à la retraite, on nous habitue à l'idée qu'il ne faut plus compter dessus. Alors, pour faire passer toutes leurs attaques, les partis au pouvoir, aidés par les médias, relativisent. Nous les avons entendus tous expliquer que finalement, travailler le dimanche, ce n'est pas si grave. Et c'est même bien, car il y a des volontaires. Pareil pour les congés. Il y en a qui expliquent que perdre deux jours de congé, ce n'est quand même pas le bout du monde. Même chose d'ailleurs sur le gel des salaires, sur les suppressions d'emplois dans la fonction publique. Il y en a toujours un pour nous expliquer qu'il y a plus grave, qu'il ne faut pas se plaindre, surtout quand on voit ce qui se passe en Grèce ou en Espagne. Eh bien non, nous avons raison de protester à chacune de ces attaques. Il faut toutes les combattre, car ce sont tous ces reculs mis bout à bout qui ont renvoyé la condition ouvrière des décennies en arrière. Faut-il rappeler que, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, il était évident de partir à la retraite à 60 ans avec 37,5 années de cotisation. Faut-il rappeler aussi qu'être embauché, cela voulait dire avoir un CDI, alors qu'aujourd'hui, 80% des embauches sont des CDD. Alors oui, tous ces reculs sont le fruit d'une politique anti-ouvrière qui a été menée aussi bien par les gouvernements de droite que par ceux de gauche. Et même le Parti communiste, qui a accompagné le Parti socialiste à deux reprises, a pris part à cette politique. Tous ces partis considèrent que les profits patronaux sont sacrés et qu'on ne peut pas toucher à la propriété privée des capitalistes, car c'est la base de cette société. Eh bien, à lutte ouvrière, c'est l'inverse que nous pensons. Si la concurrence et la loi du profit ne permettent pas aux travailleurs d'avoir un emploi et un salaire digne, eh bien, c'est tout ce système qu'il faut changer. Nous ne sommes pas mariés avec le capitalisme, ni avec la bourgeoisie et son système. Tous les partis qui ont gouverné l'ont montré. Ils sont du côté de la bourgeoisie et contre les travailleurs. Le Front national, lui, n'a jamais gouverné, mais on n'a pas besoin de le voir à l'œuvre. Le Front national est un parti bourgeois, comme les autres, mais pire que les autres. Et ce n'est pas parce qu'il n'a jamais exercé le pouvoir gouvernemental qu'il faut laisser dire autour de nous qu'il n'y a plus qu'à l'essayer. Le dégoût des partis gouvernementaux a commencé par le dégoût du Parti socialiste, nous le partageons. C'est vrai, nous ne les avons que trop vus d'ailleurs au pouvoir, ces gens-là. Mais essayer le Front national, c'est s'en remettre à ce qu'il y a de pire, c'est même suicidaire, car le Front national est fondamentalement anti-ouvrier, il est un ennemi des travailleurs. C'est un parti qui passe son temps à exacerber les peurs, et son fonds de commerce, c'est le racisme et la xénophobie. D'ailleurs, l'anniversaire de la libération des camps d'extermination nous le rappelle. Cela commence par des préjugés, par rejeter les uns et les autres, et ça finit par de la haine raciale, une haine qui est la porte ouverte à toutes les horreurs, aux crimes les plus impensables. Ces préjugés sont des poisons, et les partis qui contribuent à les alimenter sont des ennemis mortels des travailleurs. Alors pour eux, le Front national représente un danger. Car pour défendre leurs intérêts, ils ont besoin de faire bloc, et tout ce qui les divise les affaiblit. Le propre d'un démagogue est de pouvoir dire tout et son contraire. Et le Front national excelle dans ce domaine, parce qu'il cherche aussi à faire plaisir aux ouvriers. Alors il est capable de dénoncer les bas salaires, les petites retraites, mais tout cela pour nous expliquer que c'est la faute aux immigrés, c'est-à-dire à des travailleurs comme vous et moi. C'est l'immigration qui ferait baisser les salaires, dit-on au Front national. Comme si c'était les migrants de Calais qui fixaient les salaires, ou comme si les travailleurs algériens, marocains, tunisiens, turcs ou polonais préféraient être payés moins que les autres. Mais jusqu'à nouvel ordre, ce sont les patrons qui fixent les salaires. Et les bas salaires, c'est leur volonté, parce que c'est comme ça qu'ils font leur profit. Au lieu de dénoncer les licencieurs comme les seuls responsables du chômage, comme les seuls responsables de cette crise, Marine Le Pen jette en pâture les travailleurs immigrés. Jamais, d'ailleurs, elle ne dénoncera les profits patronaux, ni l'exploitation, ni même le nombre de milliardaires. Non, elle va dénoncer l'Europe, l'euro, comme si le fait d'être mal payé serait moins dur en francs qu'en euros. Elle n'a rien contre cet ordre capitaliste où une famille bourgeoise peut disposer de la vie de centaines, de milliers de travailleurs. Et pour cause, les Le Pen sont tout aussi des bourgeois. Alors oui, le PS, la droite et le Front national sont tous des partis bourgeois et nous n'avons aucune confiance, mais vraiment aucune confiance à avoir dans ces gens-là. Et dans les temps à venir, il va falloir compter sur nos forces, sur cette force que représente la classe ouvrière lorsqu'elle reprend confiance dans son action collective. D'ailleurs, pour finir, il faut qu'on se rappelle que les travailleurs n'ont jamais rien obtenu sans se battre. Toute l'histoire du mouvement ouvrier le montre, les avancées obtenues ont toutes été arrachées par des mobilisations. Tout le monde a encore en tête la manifestation du 11 janvier dernier. qui a regroupé des millions de personnes. Beaucoup se sont étonnés de la capacité de mobilisation qu'elle a révélée. Eh oui, c'était une mobilisation, et de telles mobilisations sont possibles. Alors imaginez ce que donnerait une manifestation comme celle du 11 janvier, mais contre les licencieurs et contre le gouvernement pour imposer les exigences du monde du travail. C'est cela qu'il faudrait aujourd'hui. Et l'histoire du mouvement ouvrier en a connu de telles mobilisations. Alors il est vraiment urgent, il est grand temps que les travailleurs se fassent entendre. Regardez en Grèce. Les travailleurs ne se sont pas résignés à l'austérité et au sacrifice. Contre le FMI, contre les dirigeants de l'Union européenne et des pays européens les plus riches, contre leur propre bourgeoisie, ils ont dit « ça suffit ». Ils ne se sont pas laissés impressionner par tous ceux qui prédisaient le chaos ou la faillite s'ils votaient Syriza. Ils ont osé dire non. Ils ont osé dire qu'ils ne voulaient plus payer pour cette crise dont ils ne sont pas responsables, et ils ont eu raison. Alors bien sûr, en Grèce, l'essentiel et même le plus dur reste à faire. En ce qui nous concerne, ce n'est pas dans le gouvernement Syriza que nous plaçons notre confiance, mais dans la capacité des travailleurs grecs de peser collectivement pour faire respecter leurs intérêts. Est-ce qu'ils y arriveront ? Est-ce que les travailleurs grecs se donneront les moyens de se mobiliser, ce qui est la seule garantie de pouvoir réellement inverser le rapport de force avec la bourgeoisie ? Ou est-ce qu'ils remettront leur sort dans les mains du nouveau gouvernement ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Toujours est-il qu'ils ont utilisé les élections pour exprimer leurs intérêts et pour dire leur colère et leur opposition au plan anti-ouvrier. Ils ont déjà eu ce courage, et c'est de ce courage que nous devons nous inspirer. Alors, à Lutte ouvrière, je le répète, nous pensons qu'il est vital que les travailleurs aient conscience de former une classe unie, au-delà des différences d'origine, de nationalité et de religion. Car seule la lutte pourra débarrasser la société du carcan capitaliste et apporter un début de réalité aux aspirations de liberté. En 2014, on a entendu le patronat, le grand comme le petit. On a vu défiler les notaires, les avocats, les médecins et les pharmaciens. Eh bien, faisons en sorte que l'année 2015 soit celle des travailleurs, des ouvriers, des employés et des chômeurs. Faisons en sorte que le monde du travail dans son ensemble se lève, se batte pour ses intérêts et impose ses exigences. En attendant, je vous souhaite une bonne fête. Dans quelques instants, notre camarade Nathalie Arthaud animera un forum ici même, juste devant l'estrade, forum auquel je vous invite bien sûr à participer. Mais avant cela, je vous propose de reprendre le champ de lutte des travailleurs, l'international.
C'est la lutte de la loi, pour nous et pour nous.